Moi, c'est André Lumbumbashi, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lumbumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bon début de semaine à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Le gouvernement de la RDC et la rébellion du M23 s'engagent à mettre fin au conflit dans l'est du pays. Elles ont signé le jeudi 12 décembre à Nairobi, au Kenya, deux documents concluant leur pourparlers entamés à Kampala en décembre 2012. Quel pourrait être, selon vous, l'impact de la fin de ces pourparlers sur le rétablissement de la paix à l'est du pays? Nous allons en parler tout à l'heure avec le professeur Jean-Pierre Mbobakalala, professeur d'université et analyste politique. Titi Mputu, Nadine Foula, Duma Zangou sont à la réalisation de cette émission présentée par Pierrot et la Mégis sous la supervision de Nicole Ngaka, 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct fidèle. Les auditeurs, bienvenue à tous.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Ensemble, nous allons faire le point sur la clôture des pourparlers entamés entre le gouvernement de la RDC et la rébellion du M23. C'est depuis le mois de décembre 2012 à Kampala. Ces pourparlers qui ont été mis fin officiellement le 12 décembre dernier à Nairobi, au Kenya, par des déclarations signées d'un côté par le gouvernement de la RDC, une autre déclaration signée par le mouvement du 23 mars, mais aussi avec un communiqué signé conjointement par la CIRGL et la SADC, mettant ainsi fin officiellement aux discussions entamées entre les deux parties. Plusieurs points ont été signés par les participants, disons le deux parties, et qui ont été accolés dans un communiqué conjointement signé, comme je venais de le dire, par la CIRGL et la SADC, avec 11 points de consensus selon ces communiqués, qui vont de dispositions transitoires des sécurités conduisant au désarmement et démobilisation, à la libération du des membres du mouvement de 23 mars retenus pour fait de guerre d'insurrection, que ce soit aussi la fin de l'existence du M23 tant que mouvement rebelle et sa prochaine mutation ou transformation en parti politique légitime, et autant de points qui ont été convenus par consensus. Pensez-vous, pour vous, l'impact de tout cela sur le rétablissement de la paix à l'est du pays? Nous en parlons avec vous. Vous pouvez intervenir en direct en nous appelant au 081-890-6315, 081-890-6315 pour intervenir en direct. Mais vous pouvez également nous déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nous avons deux auditeurs qui sont déjà en ligne. Dadi, qui nous appelle de Kinshasa, et Théodore Mbujimai au Kassai Oriental. Dadi, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la Mégie.
Dadi, pour vous, quel est l'impact de la fin de ces discussions sur le rétablissement de la paix à l'est du pays?
Oui, permettez-moi d'abord de faire une petite mise au point. Si cette antenne, il a été... On avait posé la question aux Congolais de pouvoir parler sur un éventuel signature d'un contrat ou déclaration entre les M23 et le gouvernement. Je pense que tous ceux qui avaient eu le privilège de participer à l'émission, il n'y avait personne qui avait accepté que cet accord puisse être signé. Et les peuples congolais, à travers les parlementaires, avaient aussi dit non. Il n'en était pas question de signer un quelconque avec les membres de M23. Mais contre toute attente, aujourd'hui, le gouvernement s'est engagé à signer un contrat avec les M23, ce qui est un peu décevant pour la population congolaise. En ce qui concerne les pactes que cet accord pourrait donner. Moi, je ne pense pas que cet accord allait donner quelque chose de bon, parce que vous savez, à chaque fois qu'on signe des accords avec les M23 ou les groupes armés, et ils se servent toujours de ces accords-là pour revendiquer les droits qu'ils estiment. Alors, ce qui est un peu étonnant ou aberrant, c'est de voir que dans cet accord, le gouvernement s'est donné même le luxe d'accorder au M23 ou à tous ses membres l'amnistie et de donner aussi, de demander à ces rebelles-là qui puissent se transformer en un parti politique ou de participer aux institutions de la République. Or, vous savez que dans notre pays...
Pour vous permettre, s'il vous plaît, Dadi, si vous êtes... Oui. Si on est ensemble, je peux vous aider peut-être à comprendre. Je crois qu'il y aura peut-être le temps que qu'on puisse vulgariser effectivement les contenus pour vous permettre. Oui. J'ai dit ceci. Le point convenu ne dit pas qu'on puisse accorder l'amnistie à tous les membres, hein, parce qu'il faut une sélectivité, n'est-ce pas? Il y a des conditions qui sont posées. Si ça pouvait nous permettre de vous les lire, parce que les communautés ont déjà dit ceci.
S'il vous plaît,
oui, moi, j'ai les
textes avec moi. Moi, personnellement, quand le ministre y a dans ses attributions les affaires étrangères a lié cet accord avant sa signature, je suivais à l'Assemblée nationale. Le ministre de la communication sur les atteintes de la RTNC avait aussi fait la lecture de cet accord. Nous tous, nous avions suivi. Si vous prenez, par exemple, l'article premier qui amnistie pour faire des guerres, rébellions, tout ça. Donc, ça veut dire que dans ce pays, quelqu'un peut se réveiller un bon matin comme ça, commencer à tuer les gens, violer les mamans et après être amnistié par la suite. Et vous prenez, par exemple, la question de l'article 8, alinéa premier, vous trouverez que là-dessus, on a dit que les M23, même ses membres, participeraient même à une commission ou à une institution qui sera chargée des rapatriements des réfugiés. Vous prenez même l'article 4 où on dit que non, le M23 va adresser toute une liste pour que le gouvernement puisse libérer ces prisonniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, le M23 peut se réveiller un bon matin comme ça, commencer à dresser des listes pour que le gouvernement congolais puisse libérer ceux qui ont violé nos mamans à l'Est. Et ce qui est aussi grave, c'est quoi? C'est que le gouvernement s'est engagé à ce qu'il puisse insérer, avec les fonds de la République, du Trésor public, insérer ces gens-là dans la société. Ce qui est inadmissible.
Voilà. Dadi, il y a ce qu'on appelle le consensus. Quand vous regardez, cela veut dire quand vous allez dans les discussions, vous finissez par trouver des points de consensus sur lesquels vous discutez. Et au-delà de tout, quand vous lisez les textes, parce que vous l'avez, nous l'avons, cela veut dire que tout le monde n'est pas concerné, que ce soit par l'amnistie, c'est-à-dire qu'on dit, bon, pour les faits insurrectionnels, mais il y a des gens qui sont concernés, par exemple, par des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, vous voyez qu'ils ne sont pas concernés par ça. Cela veut dire que ce sont les points de consensus sur lesquels les gens, quand ils sont... S'il vous plaît, Pierrot. Oui, mais s'il vous plaît aussi me permettre de pouvoir achever l'idée que j'avais, parce qu'il faut qu'on puisse permettre à ceux qui nous écoutent d'avoir un même point de vue dans les discussions. Cela veut dire que quand les gens discutent, ils finissent par trouver un point. Mais si je peux retenir ce qui est important pour nous, parce qu'on ne pourra pas décortiquer chaque point et faire l'analyse là-dessus, quant à l'impact, parce que c'est ça notre objectif final, de savoir si le fait qu'on ait mis fin à ces discussions, ça peut avoir de l'impact sur le rétablissement de la paix. Vous avez dit, pour vous, vous avez peur que le groupe armé, c'est pas seulement maintenant les différentes rébellions qui naissent ou qui ont déjà existé, ne profitent des accords qui sont signés pour revendiquer et qu'enfin, qu'on ne puisse pas connaître vraiment la paix vous l'avez dit. C'est ça pour permettre d'évoluer. Il y a beaucoup de gens qui voudraient bien intervenir. Si je peux retenir, Dadi, par rapport à votre inquiétude, vous pensez que cela ne peut pas avoir l'impact sur le rétablissement de la paix. En un mot pour terminer, parce qu'il y a beaucoup de gens sur les standards.
Oui, pour terminer, je voudrais dire tout simplement que, oui, au nom du consensus, au nom de la paix, il est tout à fait normal qu'on puisse concéder certaines choses, mais on ne peut pas concéder des choses que la population n'a pas acceptées, que la population n'accepte pas. Voilà,
okay.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Dadi, pour ce point de vue. Vous pensez qu'on ne peut pas, au nom du consensus ni de la paix, pouvoir signer n'importe quoi, mais vous êtes très inquiet par rapport au rétablissement de la paix. Voilà un peu l'orientation de notre émission. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on va voir notre invité qui est en ligne. Théodore, vous êtes en Bujimaï, au Kassai oriental. Bonjour, Théodore.
Bonjour Pierrot.
Et vous avez suivi cet échange avec Dadi qui est un peu inquiet parce qu'il y a beaucoup de points dans le contenu. On ne saura pas faire une émission qui va décortiquer chaque point qui a été signé par la déclaration des uns ou des autres. Sinon, on n'aura pas le temps vraiment de tout évaluer. Mais dans la globalité, le fait qu'on ait mis fin à ces discussions qui ont duré presque une année, alors c'est pour ça que nous regardons dans l'avenir quel peut être l'impact, parce que la finalité de tout, c'est le rétablissement de la paix à l'Est. Pour vous, quel peut être l'impact au-delà de tous les termes, de tous les débats autour des articles et des phrases qui sont dans les différentes déclarations?
Oui, merci pour la parole. Avant de parler de l'impact, nous attendions tous la signature des accords entre les M23 et le gouvernement à Nairobi. Il y a eu signature des déclarations entre les deux parties. Le gouvernement qui prend acte de la disposition du M23 et offre pour l'amnistie. Le M23, dans ses faiblesses, a présenté les listes des combattants pour l'intégration de l'armée ou encore dans la gestion des choses publiques. Parmi ces combattants, il y a ceux qui sont poursuivis pour les crimes et ceux qui sont dans une position de récupération. Pour clore, j'ai donc de l'impact. L'impact de ces déclarations nécessite des part et d'autre pour l'unité des pays et l'intégrité territoriale de notre pays. D'abord, il faut l'amour, le pardon, la réconciliation, la justice, en vue de restaurer l'autorité de l'État tout en mettant hors d'état de nuire tous les groupes armés en République démocratique du Congo, y compris les FDLR, les LRA et tous ces gens-là. Alors, je crois que c'est ça ma préoccupation.
Merci beaucoup, Todor. Vous pensez qu'au-delà du fait que chacun puisse avoir sa position et ses consensus, pour vous, l'impact ne peut arriver que s'il y a l'amour, le pardon, la réconciliation, la justice et la restauration de l'autorité de l'État. C'est tout cela qui peut garantir le rétablissement de la paix à l'Est. Merci beaucoup, Todor. Nous allons terminer avec Maître Gaston qui est ici à Kinshasa et accorder la parole à notre invité. Maître Gaston, bonjour.
Bonjour, vous m'écoutez bien là?
On vous suit, nous dégageons ensemble les pistes de solutions en regardant bien sûr dans l'avenir. On a clôturé les discussions à Kampala. Quel pourrait être pour vous l'impact sur le rétablissement de la paix à l'Est?
Disons sur le plan des titres d'abord, autrefois nous avions dit, ce n'est même pas un accord, on parle d'une déclaration. Et je vais vous dire d'emblée que dans une déclaration, là, les partis ne sont pas vraiment obligés parce qu'il n'y a même pas de sanctions. Lorsqu'on s'oublie, on se disant, on exécute pas, soit on n'applique pas ce qui a été prévu. Sur le plan des titres, d'abord, c'est quelque chose qui est à banaliser. Et puis, sur le plan régional, vous allez constater que les problèmes à l'Est, c'est un problème qui concerne toute la région. Je pense qu'il y a trois États qui sont concernés. Je pense qu'il y a Rwanda, Burundi et aussi Rwanda. Donc, vous voyez que tous ces mondes-là sont concernés, et voilà. Donc, si vous constatez, chez nous abordons plus les problèmes sur le plan du Congo, et ces gens-là sont impliqués. Si, par exemple, on dit actuellement que le M23 était un mouvement des Rwandais et des Ougandais, et ils ont fait les retirades. C'est pour dire que c'est juste, ça aura un effet, disons, ça a un effet suspensif. Donc ça suspend seulement quelques temps. Après, je pense, en 2015, on va encore revoir ces mouvements à reprendre. Maintenant, ce serait, je pense, sous la qualification, par exemple, la date qu'on avait sur la déclaration, c'était
Le 12 décembre.
Oui, ça, maintenant c'est un mouvement, maintenant je ne sais pas si c'est un mouvement du 12 décembre qu'on va encore dire, qui va encore revêtir une autre. Parce que je sais que le problème, on a terminé avec on a dit avec toute une stratégie, les M23 sont disparus, mais je pense qu'il y a les autres forces étrangères qui sont sur notre territoire, que nous avons aussi l'obligation, en quelque sorte par rapport aux stratégies, mais les M23 sont toujours là, parce que c'est aussi sur le plan, disons, interne, je veux dire sur le plan interne de notre pays, pour aussi, dans un moment-là, dire qu'il y a des choses qui s'arrangent, mais à un moment-là, je pense en 2000, vous savez, Kizenga est parti avec Nkunda qui bardait, et quand vous y êtes entré, Nkunda est disparu. Et puis,
on a vu un autre apparaître. Donc, c'est un mouvement.
Oui, si je vous comprends bien, Gaston, si je comprends vos inquiétudes, Gaston, vous pensez que cette question devrait être abordée d'une manière sous-régionale. Ce n'est pas seulement un accord ou bien des déclarations entre le gouvernement de Kinshasa d'un côté, les M23, mais il fallait plutôt trouver une solution qui implique les pays de la sous-région, parce que vous avez peur que prochainement, qu'on ait encore d'autres groupes qui vont s'élever, comme on a vu la fois passée, les accords signés avec le CNDP et après il y a eu le M23. Votre inquiétude, c'est par rapport au fait qu'on a considéré la question uniquement sur le plan interne de la RDC, en oubliant bien sûr la question dans sa globalité au niveau de la sous-région. C'est ça votre inquiétude, Gaston?
Non, l'affaire est abordée dans tous les sens d'après et là-bas, mais nous ici, la façon dont nous analysons l'aspect seulement sur les plans de notre pays, c'est là où je trouve un peu un problème, mais il y a aussi toute une stratégie qui est établie sur les plans internes ici pour, parce que vous savez, le système qui est actuellement en place protège, hein, donc on fera à tout prix que ces gens-là résistent, soient toujours là. Diagnostic de en 2015, l'eau qui vont reprendre là-bas, notre président, notre gouvernement sera toujours vainqueur, mais ils vont rester au pouvoir
voilà,
à l'encontre de ce qui est prévu.
Merci beaucoup, Gaston. Vous êtes très inquiet. Vous pensez que sur le plan interne, on considère plus la question comme touchant seulement à la RDC. Il faudrait la considérer d'une manière globale pour éviter que le lendemain, qu'on ait encore d'autres groupes qui pourront s'élever pour déstabiliser la paix à l'Est. Merci beaucoup, Gaston. Élie, vous êtes à Mahagui. Gardez la ligne. On va accorder la parole à notre invité, le professeur Jean-Pierre Mbouébouakalala, avec qui nous sommes dans cette émission. Nous rappelons encore notre sujet, qui est le gouvernement de la RDC, la rébellion du M23, se sont engagés à mettre fin au conflit dans l'est du pays. Ils ont signé le jeudi 12 décembre à Nairobi, au Kenya, deux documents concluant leur pourparlers entamés à Kampala en décembre 2012. Et pour vous, selon vous, quel pourrait être l'impact de ces pourparlers sur le rétablissement de la paix à l'est? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel.
Parole aux auditeurs.
Professeur Mbouébouakalala, vous êtes avec nous sur les antennes. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi.
Oui. J'aimerais commencer par présenter mes excuses pour les désagréments, les difficultés sur la communication que nous avons eues. Voilà.
On vous en prie. Ça va aller quand même.
Ce qui a dérangé les rendez-vous convenus.
Voilà, pense que ça va nous permettre de pouvoir évoluer la qualité de la ligne. On pense que c'est bien. Vous avez d'abord suivi peut-être les auditeurs, un ou deux auditeurs qui sont intervenus. Mais avant peut-être de revenir sur ce que les auditeurs ont pensé, est-ce que le fait déjà de pouvoir arriver à une conclusion de ces discussions, de ces négociations qui ont pris presque une année, c'est déjà un fait à saluer, le fait déjà de les conclure?
Oui, je crois que chaque fois qu'on conclut un accord sur la paix, c'est toujours un pas positif. Donc je crois, pour un pays comme le nôtre, qui a expérimenté plusieurs fois des guerres, je pense que chaque fois qu'on signe un accord ou quelque chose dans le sens de se mettre d'accord ou de mettre fin à une guerre, c'est toujours un pas positif. Donc je ne peux que saluer cela et encourager.
Mais le reste maintenant, ce sont les questions autour du contenu, autour des formes, de la forme que cela peut prendre. Mais notre idée aussi, c'est de regarder pour voir comment cela peut avoir de l'impact dans l'avenir. Bon, mais alors par rapport à l'impact, quelles doivent être en principe les garanties des parties qui ont été impliquées dans ces discussions?
Voilà. Vous savez que la difficulté que nous avons, c'est que la force avec laquelle on signe, ou les mouvements avec lesquels nous signons cet accord, n'est peut-être pas le dernier. C'est ça le drame. Donc nous allons signer avec un groupe, et peut-être demain, d'autres aventuriers peuvent surgir encore à l'est et déranger la population. C'est dans ce sens-là que cet accord, avec l'implication aussi des pays voisins, notamment l'Ouganda, peut être un pas dans la bonne direction. Hein, ça peut être considéré comme un pas dans la bonne direction, puisque finalement, l'idéal, c'est qu'avec tous les pays de la région, on condamne, n'est-ce pas, toute rébellion, et que chaque fois qu'il y a une force qui dérange un pays de la région, tous les autres pays puissent désapprouver cette action et que le dérangeur ou les rebelles se sentent désapprouvés pour qu'enfin ils soient découragés à prendre des initiatives dans le sens de déranger notre population. Donc dans ce sens-là, on peut dire que l'accord c'est une bonne chose, surtout comme il y a eu aussi implication de voisins. Donc dans ce sens-là, c'est bon.
Mais alors, les garanties par rapport aux engagements des uns et des autres, vous avez suivi peut-être nos auditeurs, hein, le premier, il est vraiment inquiet, c'est Dadi, lui il a peur, il pense au-delà du contenu, des phrases, des mots qui sont utilisés, il a peur que demain encore, on puisse voir d'autres groupes surgir. Il y a notre ami Gaston, lui qui pense aussi qu'il faut aussi considérer la question sur le plan global avec la sous-région, mais en attendant, les partis en présence qui ont signé ces déclarations, quelles doivent être les garanties qu'ils peuvent donner pour effectivement, parce que la finalité quand même c'est cette paix que nous cherchons à l'Est, quelles sont les garanties d'engagement des uns et des autres pour arriver quand même à cet idéal de la paix à l'Est?
Non, vous savez, moi je crois en termes de garanties, le mouvement qui dérangeait maintenant et avec lequel nous étions impliqués dans cet accord, est-ce que ce mouvement a la légitimité là à l'Est pour poser un acte qui pourra être durable? C'est ça la difficulté. Demain, ils peuvent changer d'acteur, d'autres acteurs peuvent encore survenir et prendre l'initiative dans le sens de troubler la paix à l'Est. Dans ce sens-là, effectivement, les inquiétudes sont tout à fait légitimes. Et donc, par rapport à ces inquiétudes, je crois que les garanties que la population et nous tous Congolais, nous devions exiger, ce sont des garanties d'aller dans le sens du contrôle de ces territoires-là sur le plan militaire. Mmh. Ça, ce sont les garanties qui peuvent nous donner à nous Congolais, n'est-ce pas, un certain sentiment de sécurité. Hein? Donc, comme aujourd'hui nous avons des partenaires qui sont venus intervenir dans le cadre des Nations Unies militairement à l'Est, je pense que la République démocratique du Congo devrait profiter de ce climat pour pouvoir consolider cette paix avec des moyens dissuasifs. Pas simplement attendre que nous puissions faire par écrit un papier politique, disons une solution politique avec un groupe qui n'a pas vraiment de légitimité à l'Est. Qu'est-ce que les M23 par exemple représentent par rapport aux populations de l'Est? Donc vous voyez, nous sommes effectivement engagés dans des accords avec des aventuriers comme ça. Pour un gouvernement, effectivement, c'est un problème. Hein, parce que chaque fois, on va signer des accords avec des gens dont la légitimité est tout à fait discutable. Mmh. Donc en termes de garanties, moi je n'irai pas dans le sens des papiers, des garanties au niveau politique, parce que c'est les gens avec lesquels nous signons, qu'est-ce qu'ils représentent sur le plan politique et quelle est la valeur de leur signature du point de vue juridique. Par contre, moi je vois que c'est une bonne chose pour que ces gens-là cessent de déranger à l'Est, mais que le gouvernement congolais aille dans le sens de consolider la paix, de nous donner la sécurité en trouvant plutôt des solutions au niveau militaire. Que notre armée contrôle effectivement l'Est. Ça, ce serait, à mon avis, l'idéal vers lequel notre gouvernement devrait aller. Parce qu'avec les papiers, vous voyez, nous avons signé, c'est bien qu'il y ait déjà l'implication des pays voisins, mais est-ce que cela est une assurance que dans le futur, nous ne risquons pas d'avoir un autre groupe armé qui viendrait troubler la paix à l'Est? Voilà. Donc, voilà. Mmh. Donc, la signature ou la solution, la résolution qui est de trouver une solution politique, c'est bon maintenant, mais je crois que en termes de garantie pour nos populations de l'Est et pour nous-mêmes Congolais, la garantie ne pourrait être que du côté militaire, parce que ce sont des gens qui viennent troubler l'ordre sur le plan militaire. Donc il faut que nous puissions aussi profiter de ces temps pour donner des garanties sur le plan militaire, à mon avis.
Merci, professeur. On vous garde en ligne. Nous avons aussi des messages, hein, les auditeurs nous ont écrit. Il y a par exemple Dieu Magistère qui nous écrit des Luanda en Angola. Il dit ceci: il n'y aura pas la paix tant que nous n'aurons pas terminé le processus de réforme de l'armée. Nous devons avoir une armée dissuasive, une armée républicaine, une armée forte. C'est celle-là qui doit vraiment garantir la paix à l'Est. Il vient de rejoindre notre invité. Il y a même aussi Théodore de Mbujima qui a parlé de la restauration de l'autorité de l'État. C'est ce qui doit vraiment permettre de consolider les acquis des différentes discussions et négociations. Jean-Pierre Mondet, qui est à Béni, lui pense par rapport à la démobilisation, au désarmement, à la réinsertion sociale des anciens rebelles. Il faudrait que le gouvernement puisse mettre des moyens et travailler en partenariat avec des structures locales qui savent bien former, qui savent apporter la formation professionnelle pour permettre à ceux qui quittent les rangs des rébellions ne puissent pas revenir encore sous une autre forme, qu'ils aient de l'emploi, qu'ils travaillent, qu'ils soient occupés pour qu'ils ne soient pas tentés à revenir dans la forêt. Bien fait, Kataliwa qui nous a écrit des Butembo dit ceci: c'est une bonne idée pour avoir signé toutes ces déclarations, mais l'État congolais doit assurer l'autorité de l'État, instaurer la paix, créer des emplois, punir tous ceux qui sont complices dans les différentes rébellions, que ce soit celle du M23. Carmel Walemba dit ceci: il ne faudrait pas qu'on puisse se distraire en ce qui concerne l'amnistie. On doit examiner pour éviter que ceux qui ont été amnistiés aujourd'hui et demain ne puissent encore prendre les armes et se retourner dans la forêt. Voilà autant des réactions des auditeurs. Nous avons aussi ceux qui sont sur les antennes, comme Elie qui nous appelle des Mahagi en province orientale. Elie, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot.
Vous avez suivi l'analyse de notre invité qui dit: au-delà du fait qu'on ait signé la déclaration pour mettre fin aux négociations, mais il faut aussi des garanties sur le plan politique, sur le plan militaire, la restauration de l'autorité de l'État. Cela peut consolider la paix, effectivement, dans les zones de l'Est. Quel est votre point de vue?
Ok, moi je pense que aujourd'hui, on se rend compte que le gouvernement s'est engagé à signer un accord. Moi je dirais que c'est un accord parce que quand vous regardez, il y a des gagnants-gagnants. Moi, j'ai étudié à l'université, on me disait que l'accord jouit des principes de pacte Rwanda, Sun-Rwanda. C'est-à-dire qu'une fois il est signé, on doit dès le dire respecter. Quand vous regardez comment le gouvernement se donne quand même, je dirais, ce courage-là de dire qu'on va amnistier certains et certains on ne va pas amnistier. Moi, je crois que la République est en danger. J'ai lu aujourd'hui même sur Internet un document qui me laisse pas décourager parfois. Parce qu'il y a un haut placé au niveau des États-Unis qui dit que la sécurité de la RDC passe par la révision des frontières. La sécurité de la RDC passe par la révision des frontières. Monsieur Pierrot, vous imaginez, tout ce qu'on peut faire là, signer des déclarations ou encore quoi, tant que cette idée-là plane, la République est en danger.
C'est-à-dire que pour vous, Elie, le problème n'est pas seulement lié au fait qu'on ait mis fin aux discussions de Kampala, et vous considérez que cela va au-delà des discussions de Kampala, et vous évoquez ces documents, peut-être que c'est vous qui l'avez lu, on ne sait pas comment l'authentifier nous autres parce qu'on ne l'a pas eu. Vous pensez, vous, qu'au-delà de cette signature, le problème réel demeure et on ne peut pas résoudre la question de la paix aujourd'hui à l'Est?
Oui, la question de la RDC est vraiment grande. Même sur ce document-là, le monsieur va dire que la richesse du Congo et le Congo est plus grand que les autorités de la RDC et même la population, d'où on ne sait pas prendre des décisions et on ne sait pas prendre des issues de sortie.
On vous écoute bien, Elie. Malheureusement, on n'a pas eu accès à ces documents pour savoir qu'est-ce qui a été dit. Bon, mais vous l'avez lu, selon ce que vous dites sur Internet. Mais pour vous, vous pensez que cela va au-delà de la RDC, des discussions entre le gouvernement et le M23 pour que la situation puisse se rétablir d'une manière normale à l'Est. Nous allons à Lubumbashi. Elie, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierre.
Est-ce que le fait déjà qu'on ait mis fin à ces discussions, on peut ouvrir une brèche pour penser qu'on peut, alors comme l'a dit notre invité, conjuguer d'autres efforts pour le rétablissement de la paix, mais il y a aussi ceux qui sont inquiets pessimiste, même comme Elie, lui pense que les questions dépassent tellement ces déclarations signées au Kenya que ça ne peut pas résoudre vraiment le problème aujourd'hui. Pour vous, comment on doit envisager l'avenir après ces signatures?
Bon, il faut d'abord souligner que terminer pour parler de Kampala, c'est une bonne chose. Mais si le gouvernement est arrivé à signer, c'est pour la consommation de la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui tenait à avoir un document où les rebelles s'engageaient à mettre fin définitivement à leur mouvement et à ne plus recourir aux armes pour faire prévaloir leurs revendications. Alors, la solution à l'Est, ce n'est pas la signature de ce document-là. Ce dernier temps, on parle trop de la paix durable. La paix durable, les gens pensent qu'il y aura paix durable si le M23 ne se reconstitue plus, parce que, vous savez, dans notre pays, il y avait d'abord l'ADL. Après l'ADL, on a eu le RCD, on a eu le CNDP, et maintenant c'est l'M23. Tout à l'heure, un auditeur a dit peut-être on va s'attendre à un mouvement des 12 décembre qui va renaître un jour. Tous ces mouvements sont venus parce que nous n'avions pas une armée forte. Donc nous ne devons pas être distraits. La solution pour la situation à l'Est, c'est la mise au point d'une armée forte et dissuasive. Nous devons prendre ce temps pour former des jeunes gens, équiper des jeunes gens pour défendre notre territoire. Si les CNDP, si Makenga et les autres se sont dit nous pouvons encore monter un mouvement, c'est parce qu'ils sentaient que l'armée congolaise n'était pas prête, n'était pas au point pour faire face à eux. Donc il faut mettre en place une armée forte. La signature de ce document, bon, il fallait le faire pour contenter la communauté internationale qui nous a quand même accompagnés, il faut reconnaître. La France, Marie Robinson, Kobler, qui tenaient à avoir un tel document, il fallait les satisfaire. Mais la solution passe par une armée. Merci.
Merci beaucoup. Eddie, la solution passe par une armée forte et dissuasive qui doit défendre son territoire. Le fait de pouvoir signer un document pour mettre fin aux négociations, c'est normal. Mais vous pensez que c'était plus pour la consommation de la communauté internationale qui a accompagné ces discussions. Mais tout passe par la formation d'une armée. C'est ce qui doit vraiment arriver à rétablir la paix à l'Est. Mais nous avons aussi le message de Marcel Moubiaï qui dit ceci. Il n'y aura pas d'impact positif sur le rétablissement de la paix dans la partie est de notre pays, car selon moi, tous les groupes armés œuvrant dans les pays sont encouragés avec ce que vous appelez accords, signatures, discussions pour parler. Tout cela donne la force aux autres qui vont croire que demain, ils peuvent aussi prendre des armes, et puis ils vont aussi passer aux discussions pour pouvoir trouver comment s'intégrer dans les institutions. Et cela ne peut pas vraiment arriver à résoudre le problème de la paix. Innocent Armand Kondoli dit ceci, cet accord, ces déclarations n'auront aucun impact sur la paix à l'est de la RDC, car le problème n'est pas vraiment le M23 pour lui, le problème il est global, c'est la convoitise des minéraux de la RDC par de pays voisins. Pour lui, il pense qu'il faut des discussions directes avec ces pays-là, parce que ce sont eux qui soutiennent les différentes rébellions qui opèrent à l'est du pays. Ceinturion Maïmbu qui nous écrit des Kananga au Kasai Occidental. Si le gouvernement a accepté de pouvoir mettre fin à ces discussions en signant une déclaration, cela montre que c'est une faiblesse. Sinon, il risque de pouvoir profiter de cette déclaration signée pour porter d'autres revendications demain. Voilà autant de messages sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nous revenons sur les antennes avec Alphonse qui nous appelle de Harou en province orientale. Alphonse, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs. Pierrot, nous vous souhaitons un bon retour sur les antennes.
Merci beaucoup, cher Alphonse. Vous avez suivi les amis. Ils disent, pour les uns, le fait d'avoir mis fin aux négociations, c'est normal. Mais la paix, le rétablissement de la paix passe par la réforme de l'armée, une armée forte et dissuasive républicaine. Et c'est ça la seule solution. C'est ce que vient de dire notre ami Eddie qui nous a appelé de Lubumbashi. Quel est votre point de vue?
Merci Pierrot. Moi, de ma part, je salue ces déclarations signées au Kenya. Parce que, d'un côté, on aura mis fin au vol, au viol, aux agressions sur des personnes innocentes et peut-être importantes pour l'avenir de notre pays. Mais de l'autre côté, on voit actuellement que il y a quand même un aspect positif, c'est qu'il y a beaucoup d'ONG humanitaires qui abondent maintenant au niveau de l'Est et puis particulièrement à la province de Nord Kivu. Et Pierrot, à mon humble avis, je pense que l'avènement du M23 et son contenu doit interpeller nos gouvernants. Il faudrait qu'ils fassent un examen de conscience et puis ajuster leur politique interne. C'est-à-dire, là, nos gouvernements sont appelés à entretenir des relations de bon voisinage et finir par cerner le fond du problème et savoir inculquer une bonne idéologie patriotique, voire même politique, comme avait pensé le président ougandais au sorti du sommet de la sécurité il y a quelques temps à Paris, en France. Et Pierrot, à tous les politiciens qui nous écoutent, mais ceux qui le seront peut-être demain ou d'ici peu, le peuple congolais a besoin de la justice. Il a besoin de l'amour, de la paix, de sécurité, de l'égalité et pourquoi pas de l'amélioration du social et une bonne politique pour développer notre pays et non plus des grèves, des manifestations, ni des prises des armes pour revendiquer son droit et être attendu parce que à mon avis ce sont là les vrais M23 avec qui il faut signer des accords véritables pour une paix durable sur toute l'étendue de notre pays, Pierrot. Mm-hmm. C'est par là que je m'arrête.
Merci.
Je vous remets l'entente.
Merci beaucoup, Alphonse. Vous saluez le fait d'abord qu'on ait mis fin aux discussions. C'est important parce que ça permet aujourd'hui aux humanitaires de pouvoir travailler, de pouvoir assister les populations qui sont déplacées, qui sont en difficulté. Cela permet déjà de pouvoir circuler. Mais vous insistez sur le fait que la situation doit servir au gouvernement congolais de pouvoir faire un examen de conscience par rapport à la révision de sa politique interne, mais aussi sa politique avec le pays voisin, sa politique étrangère. Et puis, revenir à l'essentiel, hein, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population, de la justice, et c'est ce qui est vraiment qui peut apporter la paix durable. Merci beaucoup, Alphonse. Nous retournons ici dans la capitale. Maître Kamundela, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Nous avons suivi les uns et les autres, on regarde dans l'avenir. On a mis fin aux discussions de Kampala, c'était la semaine passée à Nairobi où les déclarations ont été signées. Mais bon, alors, l'impact de tout cela sur le rétablissement de la paix, beaucoup de compatriotes pensent que le problème n'est pas dans le contenu, ni dans la forme des discussions, mais le grand problème, c'est l'autorité de l'État, le rétablissement, la réforme de l'armée, c'est ce qui doit faire, c'est que chaque fois quand il y a une rébellion, l'armée soit à mesure de protéger les territoires, et c'est par là que la paix durable, comme on le veut, pourra être installée dans les zones de l'Est. Quel est votre point de vue?
Je suis d'abord tout à fait d'accord par rapport aux avis et considérations de mes frères. Alors, ce que je dois ajouter, nous ne pouvons pas nous attendre à un bon résultat. Pourquoi? Tout simplement pour trois raisons. Les autorités congolaises n'ont pas la culture de respect des textes. Des deux. Nous n'avons pas une armée républicaine. Pourquoi? Il n'y a pas de discipline dans l'armée. Les éléments de l'armée sont tirés dans des partis politiques, recommandés par les dirigeants des partis politiques. Le salaire est médiocre. Et de trois, il y a la trahison régulière des autorités de l'État qui trahissent le pays. Alors, voilà ce que je dois vous dire présentement. Nous ne pouvons pas parler qu'il y a effectivement des déclarations différentes. Non, il s'agit là d'un accord sous deux documents différents. Parce que qu'est-ce qu'on attend par un protocole d'accord? Qu'est-ce qu'on attend par un accord? Il y a là un document où il y a des droits et devoirs. Dans la déclaration des autorités congolaises, le M23 tire des droits. Et dans la déclaration du M23, la partie congolaise tire aussi des droits. C'est seulement un protocole d'accord qu'on a séparé sous documents différents. Parce que si vous lisez très bien, à tout moment, le M23 peut commencer à revendiquer ce que la partie congolaise a soutenu dans sa déclaration. Donc, les Congolais sont spécialistes des textes, des documents, des institutions sui generis, c'est-à-dire des institutions particulières. Vous connaissez l'époque de 1 plus 4. Vous connaissez ce que nous avions connu au Congo. Les Congolais sont spécialistes pour des termes, des institutions vraiment particulières. Donc aujourd'hui, on nous amène une théorie selon laquelle simple déclaration. Mais où le Congo s'engage, Donc voilà, moi j'ai dit, il s'agit là d'un protocole d'accord, il s'agit là d'un accord quand même sous document différent pour éviter que les mêmes parties ne signent pas sur le même document. Donc les autorités congolaises ne peuvent pas commencer à considérer tous les juristes comme des enfants. Donc voilà, il ne peut pas sortir quelque chose de bon parce que nous n'avons pas la culture des textes. Tant mieux comme le document est déjà signé. Voilà ma position.
Merci beaucoup, Maître Kamoudela. Vous avez insisté sur le fait que le contenu est le même, au-delà du fait que ça soit signé séparément. Mais le problème, c'est qu'il y a des engagements, il y a des devoirs, il y a des droits pour le deux parties, quitte à le respecter, hein, parce que là, vous avez insisté sur le non-respect des textes. Mais vous pensez aussi que le grand problème, c'est l'armée républicaine, l'armée qui doit être apolitique. Voilà. Et vous insistez aussi sur la trahison, le fait que les gens doivent avoir, comme l'a dit notre ami Théodore de Mboujimaï, avoir l'amour de la patrie, travailler pour l'intérêt du Congo. C'est, voilà autant de mesures qui doivent nous aider à rétablir la paix. Mais bon, le contenu de déclaration, si on ne peut, on n'est pas en mesure de le respecter, ça ne pourra pas vraiment résoudre le problème. Merci beaucoup, Maître Kamoudela. Nous restons dans la capitale. On a perdu tout à l'heure notre invité. La liaison téléphonique nous a posé des petits soucis. Voilà, le professeur Mboubois est avec nous. Professeur, vous êtes avec nous sur les antennes de nouveau. Gabriel va garder la ligne, il est ici à Kinshasa. Vous avez suivi, beaucoup d'amis sont revenus par rapport à leurs inquiétudes, c'est normal. Mais nombreux aussi vous ont rejoint par rapport au fait qu'on doit vraiment travailler pour avoir une armée forte qui est capable de pouvoir défendre son territoire contre... toute autre agression, toute autre rébellion. Mais si quand même on peut jeter un coup d'œil à ce qui concerne les mauvaises, les différentes interprétations du contenu de ces documents, il y a un autre ami qui dit, si on n'est pas en mesure de respecter les textes, cela peut poser un problème. Parce que de toutes les façons, dans la déclaration, il y a toujours des engagements, il y a des devoirs. Et il s'inquiète, lui, hein, par rapport à ça, pour éviter que cela ne puisse encore préjudicier la situation. Mais vous avez insisté sur l'armée. Quand même on pourrait avoir cette armée capable de pouvoir se défendre et que d'un côté qu'on ne soit pas à mesure de résoudre le problème des engagements qui sont pris dans ces déclarations, est-ce que cela ne peut pas quand même mettre des fois le gouvernement de Kinshasa en position de délicatesse dans l'avenir, professeur?
Oui, bon, je crois que le gouvernement congolais doit continuer à améliorer la manière de travailler, à être plus performant de manière à servir les Congolais correctement. Je crois que il y a un intervenant là qui parlait de l'amour, de la justice, que les autorités doivent essayer de travailler pour satisfaire les Congolais. Je pense que c'est tout à fait normal et c'est aussi une des pistes qu'il faut exploiter. Parce que, voyez-vous, si les Congolais sont unis ici à l'intérieur, comme on parlait de cohésion nationale, et que le gouvernant se mette effectivement à faire de leur mieux pour satisfaire leur population, je ne vois pas une rébellion qui pourrait venir distraire les Congolais en retirant un groupe de Congolais pour combattre leurs frères. Donc je crois que c'est ça la solution à terme, parce que nous sommes des États africains, donc dans nos états fragiles, comme on dit, et qui avons toujours besoin d'être appuyés par la communauté internationale, il est important qu'au niveau de chaque gouvernement, on fasse cet effort pour être le plus optimal possible dans la recherche des solutions avec la population. Et je crois que c'est dans nos institutions politiques qu'il faudra aller chercher des solutions pour que chaque institution politique travaille de manière efficace, hein, ou efficiente. Alors, de cette manière-là, je crois que les guerres pourraient disparaître. Parce que la démocratie avec le Parlement, où les peuples sont représentés par les élus, je crois que si ces élus travaillent effectivement bien et que la population voit cela, je crois qu'on diminue sensiblement le risque de voir un groupe de Congolais prendre des armes et venir déranger la population. Je crois que c'est quelque chose qui va aussi dans le sens d'appuyer, n'est-ce pas, la consolidation de notre armée pour que l'armée soit dissuasive, que l'armée soit vraiment efficace sur le terrain et que nous cessions, n'est-ce pas, d'être l'objet de rébellions de toutes sortes.
Voilà. Merci beaucoup, professeur. On vous garde en ligne longtemps vers la fin de cette émission. Nous avons Gabriel qui nous a appelé de Kinshasa, 081-890-6315.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Gabriel, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Piero.
Vous avez suivi les uns et les autres en temps vers la fin de cette émission. Il y a des inquiétudes, mais il y a aussi des espoirs parce qu'on doit regarder dans l'avenir. Mais beaucoup ont pensé que le problème réside dans l'amélioration de la gouvernance interne, mais aussi dans la réforme de l'armée, ce qui doit permettre de consolider la paix sur le terrain. Quel est votre point de vue?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec les avis et les considérations. Maintenant, j'ai des préoccupations. La première préoccupation, c'est de savoir d'abord les garanties qui sont données au peuple congolais qui montrent que cet accord sera respecté entre les M23 et le gouvernement congolais. Et la deuxième préoccupation, parce que pour rétablir la paix à l'est de la République, le gouvernement congolais avait opté pour trois solutions, à savoir la solution politique, la solution militaire et la solution diplomatique. Nous avons vu la solution militaire de notre force armée a été positivement donc respectée. En plus de ça, ils ont signé cet accord pour mettre fin aux hostilités qui étaient perpétrées à l'est de la République. Maintenant, pourquoi on ne parle pas de la solution politique? C'est ça donc ma préoccupation.
Voilà, merci beaucoup. On pourra demander à notre invité comment interpréter la solution politique. Il l'a dit, effectivement, c'est le fait d'avoir conclu un accord, c'est ça. Sur les plans politiques, on a conclu un accord, quitte à mettre maintenant les contenus de cet accord en pratique. Mais vous avez aussi salué l'aspect militaire. On pourra demander à notre invité, on a vu l'aspect militaire, l'aspect politique, peut-être les sous-bassements de cet aspect politique, on pourra voir avec notre invité. Merci beaucoup, Gabriel Jadot. Vous êtes à Lubero, dans la province du Nord Kivu. Bonjour. Jadot, si vous pouvez arrêter carrément votre poste récepteur. Bonjour,
professeur, mais quant à nous ici à l'Est, monsieur Perrault, nous avons une lecture plutôt négative et un regret. Savez-vous que dans le même contenu que l'accord du 23 mars aurait été conclu, c'est dans le même terme que l'accord du 12 décembre a été conclu à Kampala, parce qu'il s'agit là où dit la RDC s'engage à respecter et à amnistier, alors qu'au 23 mars aussi, le CNDP de l'époque s'était engagé de ne plus revendiquer quelques revendications par les armes. Et aujourd'hui, lorsqu'ils disent qu'ils ne vont plus revendiquer par les armes, nous regrettons que cela soit fait. Et le regret, c'est quoi? C'est parce que le peuple congolais vient d'être trahi par des gens qui ont fait une guerre conventionnelle. Après avoir été déçu par le peuple congolais, en 2011, il faudrait retrouver une légitimité d'une manière ou d'une autre. Et le président Kabila semble avoir même téléguidé cette guerre parce qu'à l'issue, on ne pouvait plus signer un quelconque accord avec le mouvement du 23 mars, lorsqu'il a été défait militairement. Ça, c'est une autre trahison contenue de l'article 165 de notre constitution.
Jadot, si on peut se comprendre, Jadot, s'il vous plaît, si on peut se comprendre, vous êtes encore en ligne, Jadot?
Je suis toujours à l'île.
Voilà, là c'est une quand même c'est une accusation grave, dire que la guerre a été téléguidée parce qu'il y a eu échec des élections en 2011. Je crois que c'est une accusation grave qu'on ne saura pas prouver vraiment dans parole aux auditeurs. Je comprends bien sûr l'inquiétude, la déception que vous pouvez avoir, vous qui êtes à l'Est en ces moments, qui connaissez la situation de ces différentes guerres, vous pouvez effectivement avoir cette déception, mais nous pouvons pas peut-être aller au-delà de notre déception pour porter des accusations de sur les autorités qui peuvent avoir téléguidé une guerre, parce que là on ne saura pas l'éprouver ni permettre aux uns aux autres de se défendre ici dans cette émission. Mais dis-moi, si je reviens à votre inquiétude, vous pensez que ce sont les mêmes termes, hein, c'est les contenus de ce qui a été signé le 23 mars 2009 avec le CNDP, qui s'était aussi engagé à devenir un parti politique et n'est plus revenir dans revendiqué par la rébellion, mais curieusement un autre groupe s'est créé en revendiquant bien sûr ces mêmes accords. Et vous avez peur que, au-delà du fait qu'on ait signé ces déclarations qui sont presque les mêmes, qu'on revienne encore à une autre rébellion qui va utiliser les mêmes termes qui sont utilisés aujourd'hui? C'est ça un peu votre inquiétude, au-delà des accusations que nous ne pouvons pas prouver dans cette émission, Jadot?
Mais, oui, merci à fait d'avoir donné ces rectificatifs, mais il y a ceci. Il faut comprendre que le Rwanda est en train d'utiliser une stratégie de filtration de la République démocratique du Congo, parce que on a dit qu'il y aurait des mercenaires rwandais qui seraient infiltrés dans le M23. On dit lorsqu'ils seront intégrés, nous allons avoir encore d'autres éléments rwandais qui auront infiltré l'armée congolaise, qui après-demain, alors à un certain moment, nous allons nous retrouver devant une armée complètement infiltrée par le Rwanda, et le Rwanda pourra lancer une guerre que nous n'allons pas gagner. Alors le peuple congolais doit être un peuple très vigilant, savoir que c'est trop d'intégrer les gens dans les institutions politiques pour avoir fait une guerre. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de résister contre cet esprit de balkanisation, même comme le disait un auditeur, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut réviser les frontières de la République démocratique du Congo. En 1885, nous les Congolais qui vivons aujourd'hui n'étions pas à la table de Berlin. Nous avons juste constaté qu'il y a une République démocratique du Congo qu'on nous donne. Nous n'avons pas intérêt à chaque fois qu'on nous fasse la guerre, tout simplement parce que nous avons un Congo potentiellement riche.
Voilà.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte que le peuple de la sous-région puisse vivre pacifiquement, mais chercher à réviser les frontières, ça ne nous aidera rien, parce que nous continuons toujours à résister contre quiconque qui voudra balkaniser notre pays,
voilà,
contre notre propre gré.
Merci.
Voilà ce que je
Merci
pouvais
beaucoup,
dire,
voilà.
Monsieur Pierrot Samedi.
Merci beaucoup, Jadot. On comprend ce souci que vous avez, hein, de la défense de l'intégrité du Congo, de garder les Congos dans ses frontières. Comme on l'a dit, on voit des slogans à Kinshasa, on voit de postales, des publicités, on dit le Congo reste indivisible, hein, un seul pays. Merci, c'est le souci-là que vous avez, mais au-delà de tout, vous avez peur, parce que toutes les rébellions qui sont accusées d'attaquer la RDC par l'Est, on dit souvent qu'il y a des mercenaires qui sont recrutés au Rwanda, qui sont infiltrés, et comment faire à ce que la situation puisse prendre fin pour éviter que d'autres personnes infiltrées ne puissent encore revenir demain pour pouvoir déstabiliser encore la RDC. Et vous avez appelé à la vigilance. Merci beaucoup, Jadot. Nous avons Franck qui nous appelle de Vienne pour terminer cette émission avec les auditeurs qui sont sur les antennes et permettre à notre invité de conclure. Franck, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierre, merci pour la parole accordée. Bonjour aussi à l'invité.
Vous allez terminer au nom des auditeurs. Vous avez suivi les uns et les autres comment consolider la paix après la fin de ces discussions de Kampala.
Ouais, il faut que nos honorables députés se mettent vraiment à leur place. Il faut aussi que les membres de notre gouvernement prennent leurs responsabilités sérieuses. Parce que là, nous nous rendons compte que de l'AFD, le M23, passant par le RCD, le CNDP, et finalement aujourd'hui le M23, du grand-père qui est l'AFD, le petit-fils qui est le M23, c'est toujours le même cas de charge qui est présenté avec les mêmes revendications. Alors, on ne sait pas jusqu'ici est-ce que ces gens sont vraiment sincères par rapport à tout ce qu'ils ont accepté. Ils ne vont plus changer de face demain et exiger encore le contraire de ce qu'on leur a concédé aujourd'hui. Comme certains compatriotes l'ont déjà dit, il nous faut tous beaucoup de vigilance, parce que nous savons tous que notre pays est encore objet de manipulations et de complicité au niveau national et international. Donc nous demandons à nos autorités de se montrer responsables, parce que ce pays nous appartient. On ne doit pas seulement l'hypothéquer à base de nos intérêts égoïstes. Donc nous savons tous que le pays est encore victime d'une large complicité. Nous demandons surtout à nos députés de ne pas se laisser faire. Donc, la rébellion peut avoir, hein, mais la complicité, le plan de la complicité, on n'a pas encore renoncé à ça. Donc, il faut encore travailler là-dessus.
Voilà. Merci beaucoup, Franck. Nous terminons par là. Vous avez insisté sur la sincérité de ceux qui se sont engagés à essayer ces déclarations. Mais au-delà de tout, vous pensez qu'il y a la complicité interne et externe dans l'attaque, dans les attaques urgentes contre la RDC. Mais le plan est toujours là. Il faut des vigilances. Il faut qu'on puisse travailler, que les politiciens, que ce soit ceux qui sont dans le Parlement, dans les institutions, puissent se réveiller pour travailler. Merci beaucoup, Franck. On a aussi quelques autres messages de nos auditeurs, peut-être deux ou trois. Presque tout le monde est unanime que la paix passe par le rétablissement de l'autorité de l'État. C'est ce que pense Franck Junior qui nous a écrit des Tchikapa, Arsène Moussangou et Limpia de Kampala. Limpia de Kampala, lui, pense qu'il faudrait des discussions qui doivent impliquer les pays voisins pour qu'on puisse trouver solution aux problèmes de l'Est du pays. Merci à tous. Vous avez été très nombreux à réagir. On revient à vous, professeur Jean-Pierre Mbouboakalala. Vous avez suivi les uns et les autres. En un mot pour conclure cette émission, on peut dire quand même que les espoirs sont permis à chaque fois, comme vous l'avez dit, qu'on sort d'une discussion qui doit apporter la paix. Et qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive, professeur? Professeur Jean-Pierre Mbouboakalala, vous êtes avec nous? Ah voilà, désolé qu'on a perdu.
Oui. De gouvernants, parce qu'il ne faut pas que ça soit chaque fois des répétitions. Alors, je crois que les inquiétudes de certains auditeurs, c'est qu'il ne faut pas que chaque rébellion qui est déclenchée soit une occasion de voir une partie de ces rebelles entrer dans les institutions politiques. Sinon, ça devient l'habitude, parce qu'il y a des gens qui ont été élus pour animer ces institutions politiques, qui ont des comptes à rendre. Alors, quand on reprend les gens simplement parce qu'ils ont commencé la guerre à l'Est, et que ces gens doivent rejoindre les institutions politiques, c'est une mauvaise manière de faire, mais parfois on comprend que les négociateurs peuvent être obligés de faire aussi des concessions pour faire un pas dans le sens de l'adversaire lorsqu'on est autour de la table de négociation. Mais toujours est-il que pour les Congolais, comme ça devient comme une sorte de répétition chaque fois, ça devient quelque chose qui inquiète les gens. Surtout éviter que par ces canaux-là, on réintègre l'armée qui doit plutôt être une affaire des patriotes qui se battent pour défendre l'intégrité de notre territoire. Mais nous comprenons aussi, donc comme Congolais, ayons aussi de la compréhension mutuelle et que nous soyons forts en nous mettant ensemble au lieu de nous diviser. Et à ce moment-là, les gens qui regardent de l'extérieur n'auront pas la facilité de nous attaquer. Donc c'est un peu dans ce sens que j'exhorterai les uns les autres à ne pas se juger avec sévérité, à comprendre que parfois les négociateurs peuvent aussi à certains moments faire un geste, parce que nous avons aussi des témoins qui sont des partenaires internationaux qui nous assistent dans ces choses-là.
Merci beaucoup, professeur Jean-Pierre Mbouboakalala, d'avoir été notre invité dans cette émission. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur d'université et analyste politique. On va se retrouver demain. Vous savez que la loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police a été votée au Parlement. Parmi les grandes lignes de cette loi, il y a entre autres les dépenses sur les prestations du personnel, le matériel et l'équipement, ainsi que la réfection et la construction des édifices. Quel pourrait être pour vous l'impact de cette loi sur l'amélioration du travail de la police? On se retrouve demain à la même heure. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Au revoir.